ou quelqu'un que vous connaissez étudier une nouvelle langue? Le concours national des langues SBS 2018 est ouvert jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sbs.com.au/nlc18.
Les grands titres de ce mardi, peu d'espoir après le crash d'un avion Lion Air avec 189 personnes à bord près de Jakarta en Indonésie. L'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull lance l'avertissement qu'un déménagement de l'ambassade d'Australie en Israël compromettrait un accord commercial avec l'Indonésie. Le Conseil de Cricket Australia, sous pression pour accepter une partie de la responsabilité d'une culture, je cite, « arrogante » dans le jeu. Des restes humains, des débris d'avions et des effets personnels ont été retrouvés dans la mer de Java après qu'un Boeing d'une compagnie aérienne indonésienne se soit écrasé quelques minutes après le décollage de Jakarta, faisant 189 morts à bord. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que les responsables travaillent d'arrache-pied pour trouver des réponses pour les membres des familles des victimes du vol.
We understand the concern of the families, but we hope the family members can be patient to wait for the search and rescue teams that are working very hard at the location of the crash.
Voilà le président indonésien. On va passer maintenant au reportage de Joël Bronner, l'envoyé spécial de Radio France Internationale en Indonésie.
Alors que la nuit vient de tomber sur l'île de Java, une conférence de presse s'organise dans un bâtiment de la plage de Tanjung Pakis, près de la ville de Kerawang, non loin de la capitale Jakarta. C'est le lieu terrestre le plus proche du crash du Boeing 737 de la compagnie Lion Air qui s'est déroulé dans la mer à près de 50 km de là. Les représentants des secours et des forces de sécurité décrivent alors la situation au large, là où l'avion de ligne s'est abîmé en tout début de matinée, peu après le lever du soleil. Irgène Mariotto est le chef de la police de Java West.
Pour des raisons d'efficacité opérationnelle, nous avons cessé les recherches à 17h. Jusqu'à présent, elles se sont surtout déroulées à la surface. Demain, notamment grâce à un sonar, nous chercherons plus profondément sous l'eau. Aujourd'hui, nous avons retrouvé des débris de l'avion ainsi que des biens qui appartenaient a priori aux passagers, comme des chaussures ou des sacs. Nous avons aussi retrouvé des morceaux de corps humains.
J'ai envie de parler de ces
départs, identifier parce et que qui ont été transportés dans des hôpitaux.
Les recherches en mer doivent se poursuivre à présent au moins toute une semaine, une période de temps éventuellement extensible.
Joël Bronner pour RFI. Le ministère australien des Affaires étrangères a déclaré que l'ambassade d'Australie à Jakarta tentait de manière urgente de savoir si des Australiens étaient impliqués dans le crash de l'avion. Peter Harbison du Center for Aviation a déclaré que même si on ignore si des Australiens étaient sur le vol qui s'est écrasé, les Australiens utilisent beaucoup Lion Air.
Lion probably flies about two-thirds of the domestic services in Indonesia, so pretty much most Australians who travel around in Indonesia would fly on Lion Air. It's now the largest domestic low-cost carrier in Indonesia by a long shot. It's got 225 aircraft in the group, it's got about 450 aircraft on order.
Peter Harbison du Center for Aviation. Un chercheur de Human Rights Watch a déclaré que les intérêts australiens en Indonésie seraient la cible de protestations s'ils décidaient de déménager l'ambassade d'Australie en Israël. Avant l'élection partielle de Wentworth, le Premier ministre australien Scott Morrison avait déclaré qu'il envisageait de déplacer l'ambassade d'Australie de Tel Aviv à Jérusalem. L'Indonésie est un partisan des Palestiniens dans leur conflit avec Israël et n'a pas de relations diplomatiques avec le gouvernement israélien. Andreas Harsono, chercheur à Human Rights Watch, spécialiste de l'Indonésie, a déclaré à SBS que le gouvernement indonésien serait sous pression pour réagir si l'Australie décidait de déménager l'ambassade.
If the government is considered not responding enough for these protests, local protests, then they might elevate the stake. I don't know what it will be, but it can be a lot of things, including against the government itself. So like it or not, the Indonesian government, any Indonesian government, will respond to this kind of move, especially if it is being realized.
Andreas Arsenault, chercheur à Human Rights Watch. L'ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull a rencontré le président indonésien Joko Widodo à Bali dans le cadre d'une conférence mondiale. Malcolm Turnbull est l'envoyé spécial du gouvernement australien et après cette réunion, il a déclaré que le président indonésien avait exprimé, je cite, de sérieuses inquiétudes sur la perspective d'un transfert de l'ambassade d'Australie de Tel Aviv à Jérusalem.
The president expressed to me, as he has done to Prime Minister Morrison, the very serious concern held in Indonesia about the prospect of the Australian embassy in Israel being moved from Tel Aviv to Jerusalem. So there's no question that were that move to occur, it would be met with a very negative reaction.
Malcolm Turnbull et le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que son gouvernement prendrait des décisions en fonction des intérêts de l'Australie et non pas de ce que les autres pays vont dicter.
I will always act in Australia's national interests. My views haven't changed. We will follow a proper process before making any decision on this matter. I stress a decision has not been made on this matter. We will follow a proper process, but let me stress, Australia decides what our foreign policy is, and only Australia.
Le Premier ministre australien Scott Morrison. Dans le Victoria, un nouveau sondage montre que Daniel Andrews est le chef préféré et les travaillistes ont une avance décisive avant les élections du 24 novembre prochain. Il semble que les Victoriens ont été influencés par les troubles de la coalition au niveau fédéral. News poll publié dans The Australian indique que le Parti travailliste a une avance préférentielle de 54% des deux partis. Daniel Andrews est également le chef préféré, 45% contre 29% pour le chef de l'opposition, Matthew Guy. Angela Merkel a annoncé qu'elle démissionnerait de la direction de son parti. Madame Merkel dirige le CDU depuis l'an 2000 et elle est chancelière allemande depuis 2005. Son gouvernement a entamé son quatrième mandat en mars dernier et après une élection régionale à Hesse dimanche, la CDU de Madame Merkel ainsi que les sociaux-démocrates de centre-gauche ont perdu du terrain tandis que les Verts et l'extrême droite ont fait des gains. Madame Merkel affaiblit davantage a décidé de prendre en charge son propre départ.
Firstly, at the coming CDU party conference in December, I have decided not to run again for CDU party leader. And secondly, this fourth term is my last as Chancellor of Germany.
Voilà, Angela Merkel, la chancelière allemande. On écoute l'analyse maintenant de cette décision de Franz Basner, politologue allemand. Il est sur RFI.
Il y a Annegret Kramp-Karrenbauer, l'ancienne ministre-présidente de la SAR, qui a été nommée secrétaire générale du parti. Elle est proche de Merkel et serait plutôt une continuité. Deuxièmement, Jens Spahn, ministre de la Santé dans le gouvernement actuel, une génération plus jeune, qui a critiqué Merkel et qui sera donc candidat vraiment pour une autre ligne que celle de Madame Kramp-Karrenbauer. Et soudainement réapparaît une des grande tête du parti chrétien-démocrate, Friedrich Merz, qui était un homme fort au début du premier mandat de Madame Merkel, et c'est elle qui l'a plus ou moins, je ne dis pas viré, mais quand même qui l'a fait comprendre qu'il n'était pas souhaité qu'il continue au Bundestag. Et il représente une nouvelle prise de conscience que peut-être le schéma selon lequel Madame Merkel a positionné les chrétiens-démocrates au centre, c'est peut-être pas le seul choix à faire. Donc vous avez un vrai choix avec ces trois personnalités, mais ça montre en même temps qu'il sera difficile de concilier le parti avec lui-même.
L'ouverture du sommet Union européenne, monde arabe à Athènes hier. Des représentants d'une trentaine de pays sont dans la capitale grecque. Les questions migratoires ont dominé la première journée, comme l'explique Charlotte Stevenar pour RFI.
En début de discours, le premier ministre grec Alexis Tsipras s'est félicité de l'augmentation constante du nombre de participants à ce sommet Union européenne-monde arabe, dont c'est la troisième édition cette année.
Il y a trois ans, à cette époque de l'année, nous n'avions pas encore pris conscience à quel point le dialogue euro-arabe serait important pour la région et pour l'Union européenne en particulier. Nous ne savions pas l'étendue de la crise des réfugiés ni les défis majeurs en termes de sécurité auxquelles nous ferions face avec la déstabilisation continue de la Libye, la détérioration de la situation en Afrique de l'Ouest, l'escalade de la guerre en Syrie ou le retour des combattants étrangers.
Le commissaire européen à la migration, Dimitris Avramopoulos, était lui aussi présent. Il a rappelé l'importance de ces questions dans la région, mais aussi dans le monde entier.
Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 70 millions de personnes sont réfugiées, 250 millions sont immigrés, c'est-à-dire 10% de la population mondiale. Une mobilité qui a des impacts humains, sociaux et économiques.
Le sommet se poursuivra deux jours avec la présence notamment de pays clés de la crise migratoire comme la Libye, l'Égypte ou encore l'Irak.
Charlotte Stevenard pour RFI. Attentat suicide dans la capitale tunisienne hier lundi. Le dernier bilan fait état de 20 blessés. Écoutez Wallis sur RFI. Il travaille dans une librairie et fut le témoin de l'attaque suicide.
Comme d'habitude, j'étais au centre-ville puisque je travaille ici, mais j'ai entendu juste une explosion. Je pensais qu'il y a quelque chose, une bouteille de gaz ou bien une autre chose. Mais après, j'ai vu une femme qui est allongée juste au sol. Les vêtements sont déchirés et avec le sang partout. Et les gens tous courent vers moi. Tout le monde ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde court dans tous les sens. Après une demi-heure, ils sont fermés de l'avenue des deux côtés. Alors je pense que le terrorisme n'est pas maintenant dans les montagnes et loin de nous, mais il est ici et entre nous. Ils ont frappé dans le centre-ville. C'est un rue symbolique en fait. L'avenue de Bourguiba pour la Tunisie, c'est symboliquement l'avenue de la liberté.
Au Brésil, le nouvel homme fort, Jair Bolsonaro, veut réduire le nombre des ministères du gouvernement de 29 à 15. Les militaires vont aussi faire pression et peser de tout leur poids. Véronique Guémard, RFI.
Tout d'abord, son vice-président, Hamilton Mourão, général de l'armée à la retraite, ouvertement raciste et homophobe, nostalgique des pires heures de la dictature, il a publiquement affiché son admiration pour le colonel Brillante Ustra, un des tortionnaires du régime militaire. Il est considéré comme bien plus dangereux que Jair Bolsonaro. C'est lui qui donne la caution de l'armée, une armée très présente à l'issue de ses élections présidentielles et législatives, puisque 73 militaires ont été élus au Congrès, un chiffre record, sans compter ceux qui ont obtenu un poste de gouverneur. Mais Hamilton Mourão fait beaucoup de gaffes politiques. Le nouveau président a lui-même dû le rappeler à l'ordre lorsque le général avait assuré qu'il pourrait réécrire la Constitution ou qu'il fallait rendre plus blanche la race au Brésil. Autre personnalité issue de l'armée, le général Augusto Heleno, qui pourrait occuper le ministère de la Défense. Il était premier commandant en chef de la mission de l'ONU en Haïti. Il avait alors déclaré que l'armée n'avait pas à s'excuser pour les violations des droits de l'homme commises pendant la dictature. Et enfin, le général Osvaldo Ferreira, pressenti comme ministre des Transports, ancien chef du département de génie et construction de l'armée, il est connu, lui, pour ses positions contre les politiques environnementales.
Véronique Guémard. Un mot de sport, Cricket Australia et le syndicat des joueurs risquent à nouveau de s'affronter à la suite des interdictions résultant du scandale de tricherie à Cape Town en début d'année. Le rapport de lundi dernier sur la culture du jeu commandé à la suite de la controverse sur la manipulation du ballon a mis en lumière la culture, je cite, arrogante de Cricket Australia. Ce rapport a relancé le débat sur l'opportunité de modifier la durée des suspensions. Le président de Cricket Australia, David Peaver, a déjà rejeté cette idée et il s'est exprimé sur l'ABC. Ni lui et le Conseil échappent à toute sanction pour leur rôle dans la controverse.
We accept our share of accountability for what happened in South Africa. Had we not accepted that accountability, we wouldn't have instituted and commissioned an independent review. We have had a hiccup in South Africa. And we're taking the opportunity to learn the lessons of that so that we can make the game even stronger.
Le président de Cricket Australia. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth maximal de 26 degrés, Adélaïde 28, Melbourne 26, Hobart 21, Canberra 29, Sydney 25, Brisbane 27, Cairns 31, Darwin 35 et à Alice Springs maximal de 31 degrés. Et un rappel des grands titres de ce mardi, peu d'espoir après le crash d'un avion Lion Air avec 189 personnes à bord près de Jakarta en Indonésie. L'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull lance l'avertissement qu'un déménagement de l'ambassade d'Australie en Israël compromettrait un accord commercial avec l'Indonésie. Fin du journal, restez avec nous pour le reste du programme.
Êtes-vous inscrit au concours national des langues SBS 2018? Le concours est ouvert à toute personne apprenant une nouvelle langue jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, visitez sbs.com.au/nlc18.